toute l'équipe. Ces beaux chants de louange. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et trouver le livre de l'Apocalypse. Pas difficile, ce dernier livre, notre Bible. Et aussi le chapitre 7. Pendant que vous êtes en train d'y tourner, je vous rappelle que nous sommes en train de continuer notre étude systématique de ce livre, souvent négligé, mais très riche en instructions pour le peuple de Dieu. Le chapitre 7, c'est ce qu'on appelle une parenthèse. C'est une pause dans les événements qui déroulent de façon chronologique. Alors, il y a une pause avant que l'action ne se reprenne. Et si vous allez regarder attentivement le livre de l'Apocalypse, vous allez constater qu'il y a trois parenthèses dans ce livre. Alors, ce matin, nous sommes en face dans le chapitre 7 de la première de ces parenthèses. Et la parenthèse que nous avons là est entre les chapitres, entre le sixième et le septième sceau. Et ce chapitre-là répond à une question qui est posée à la fin du chapitre 6. Là, nous lisons, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Alors, si nous allons comprendre le chapitre, il faut tout d'abord comprendre le contexte dans lequel il se trouve. Vous allez voir en lisant ce chapitre que les événements se déroulent tantôt sur la terre, ce sont les versets 1 à 8, et ensuite, les événements se déroulent au ciel, versets 9 à 17. Le texte nous parle de deux groupes d'individus. Nous avons les 144 000 juifs, et ensuite nous avons la grande foule. Et les événements se déroulent pendant la grande tribulation, une période de 7 ans qui est marquée par le règne de l'Antéchrist et aussi par les jugements divins, les sceaux, les trompettes et les coupes. Alors lisons ensemble notre texte, Apocalypse chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant et cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azar, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Simeon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu de Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Marqués du sceau. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la souveraineté de Dieu. Et le titre de mon message, c'est « Le Père a toujours raison ». Et le fait que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de compte à rendre à personne, ni à vous, ni à moi. Quelqu'un a bien dit que La souveraineté de Dieu, c'est la doctrine préférée de Dieu. Et ce serait aussi votre doctrine préférée si vous étiez Dieu. Mais souvent dans le contexte évangélique, on entend dire ceci, quand on parle justement des personnes qui seront sauvées ou ceux qui seront perdus, on entend souvent les gens dire, mais l'indigène qui se trouve au fin fond de la jungle, qu'est-ce qui va lui arriver? Et trop souvent, cette question-là qui est posée, c'est une façon de détourner justement la discussion parce que la personne avec qui tu parles ne veut pas justement admettre sa propre responsabilité face à l'Évangile. Ce matin, j'aimerais vous dire que laissez cela avec Dieu. Soyez rassurés que dans la souveraineté de Dieu, il n'y aura personne au ciel qui devrait être en enfer. Et personne en enfer qui devrait être au ciel. Des fois, la souveraineté de Dieu nous laisse perplexes. Je ne sais pas si vous avez regardé récemment les nouvelles. On parle d'une jeune mère qui a donné naissance à des jumeaux. Et elle a appris qu'elle a le cancer et elle a juste quelques mois à vivre. Triste nouvelle. Et quand on regarde dans notre monde, on voit cela, puis on voit de l'autre côté de la médaille des personnes âgées, je n'ai rien contre les personnes âgées, l'âge d'or, mais très souvent on trouve aussi, il y a des personnes qui sont âgées, qui sont malades et qui restent en vie pendant de longues années. Et voilà que le Seigneur permet dans sa souveraineté une jeune mère, deux jeunes enfants, elle est mourante. On pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Et peut-être ce matin, vous êtes en train de lutter avec la souveraineté de Dieu. Peut-être dans votre vie, il y a une situation où Dieu pourrait paraître injuste. Mais j'aimerais vous proposer et vous dire que ce matin, que vous soyez impliqués de près ou de loin, si on veut être des chrétiens qui sont comblés, qui sont heureux, il faut qu'on soit soumis à la souveraineté de Dieu. Et j'aimerais ce matin vous proposer trois gestes à poser. Comment respecter la souveraineté de Dieu? Dans le texte que nous avons ici, nous avons la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu qui est démontrée par sa volonté pour la nation d'Israël. Si vous gardez votre texte au verset 3, nous allons lire. Les anges vont dire, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Vous savez, on nous dit actuellement que la nation d'Israël compte 7,2 millions d'habitants. Et dans ce contexte ici, Dieu va en choisir 144 000. Ils vont les marquer de son sceau. Il va les appeler ses serviteurs. Et dans le texte original, le mot veut dire littéralement ses esclaves. Et quelle est l'implication ici? L'implication, c'est que ces 47 000 juifs appartiennent à Dieu, sont sa propriété. Et si vous regardez dans votre Bible d'une couverture à l'autre. La nation d'Israël appartient à Dieu. Et dans sa souveraineté, Dieu a choisi cette nation parmi toutes les nations de la terre. Quand Moïse va aller voir Pharaon, une confrontation. Le mot d'ordre, c'était « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. » Sur la montagne de Sinaï, Dieu va dire à Israël, « Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Entre tous les peuples, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Et dans Jean, nous lisons ceci, que Jésus est venu chez les siens. Et les siens n'ont point reçu. Et dans Romains chapitre 11, l'apôtre Paul va poser une question d'importance capitale. Il va dire ceci, « Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» Même si Israël a crucifié leur Messie, même si Israël a rejeté le Seigneur, Paul va dire ceci, la réponse est non. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Alors, tout au début, j'aimerais souligner que ces 144 000 personnes-là sont des Juifs, sont de la postérité d'Abraham, sont marqués de la sceau, sont la propriété de Dieu, sont marqués par le sceau de Dieu pour démontrer qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas comme si vous avez remarqué, quand vous avez lu le texte, que la tribu de Dan n'est pas mentionnée. Quelques commentateurs pensent que c'est parce que cette tribu était impliquée particulièrement dans l'idolâtrie. Mais Dieu est souverain et il choisit qui il veut. Alors, ces 144 000-là sont marqués par le sceau de Dieu pour démontrer qu'ils sont la propriété de Dieu, mais aussi pour assurer leur protection. Vous allez voir au verset premier, il y avait justement les anges qui retenaient les quatre vents de la terre. Et au verset 2, nous lisons ceci, « Un autre ange qui cria d'une voix forte, « Ne faites point de mal à la terre ni à la mer. » Et le contexte de ces versets-là, c'est parce que Dieu est en train de frapper la terre avec ses jugements. Et la question, c'est que le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Et Dieu va marquer maintenant ces 144 000 individus pour les protéger, pour assurer leur protection, justement, des jugements qui s'en viennent. Dans 2 Pierre 2, 9, nous lisons ceci, « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. » Et dans le texte original, ce jugement-là veut dire un jugement sévère. Et le contexte que nous avons ici nous fait penser un peu à la destruction de Sodome et Gomorre. Quand Dieu a décidé de détruire ces deux villes et des villes avoisinantes, justement à cause de la méchanceté dans ces villes, l'ange a sauvé Lot, sa famille. Et ce qu'il a dit est vraiment intéressant, pas besoin d'y tourner, mais dans Genèse chapitre 19, l'ange dit à Lot, « Hâte-toi des petits réfugiés. » Il y avait une petite ville que Lot voulait y aller. « Car je ne puis rien jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » N'est-ce pas rassurant, n'est-ce pas réconfortant de voir que Dieu va frapper la terre, il va punir justement les injustes, mais il sait préserver ce qui lui appartient. Quand il s'agissait du déluge, il a protégé Noé. Venant de voir qu'il a protégé Lot lors de la destruction de Sodome et Gomorre. Et le Seigneur aussi va protéger les 144 000 lors du jour de sa colère. Vous savez, Abraham avait posé une question juste avant la destruction de Sodome et Gomorre. Il avait dit ceci à Dieu, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? » Il a dit à Dieu, « Tu es le juge de toute la terre. » Est-ce que tu ne vas pas exercer de la justice? Comme nous avons vu ce matin dans le culte. Et vous savez que Dieu est juste. Et il ne fera pas périr le juste avec le méchant. Alors, Dieu va leur donner la protection. Non seulement ils sont la propriété de Dieu, non seulement qu'ils sont préservés, mais cette protection-là, ils sont protégés, va assurer aussi leur préservation. Vous savez, si vous allez, n'y allez pas, mais si vous irez au chapitre 14 de l'Apocalypse, vous allez retrouver les mêmes individus, les 144 000 qui sont là, bel et bien en vie. Mais j'aimerais, au lieu de faire une fast forward, j'aimerais rebobiner. Et retourner dans Psaume 121, je vous lis le texte qui dit ceci. Celui qui te garde, en parlant de l'Éternel, ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Et quelle assurance de protection et aussi de préservation. Vous savez, je pourrais demander à quelqu'un de me protéger. Disons que j'étais quelqu'un de très important, premier ministre du Canada ou président des États-Unis ou whatever. Et vous êtes mes gardes du corps. Et je vous demanderai de me protéger. Mais à quoi bon serait votre protection si vous êtes en train de dormir? Le texte nous dit ici que Dieu garde Israël, il ne sommeille ni ne dort, et sa protection assure la préservation. C'est 24 heures sur 24. Ce peuple-là, ces individus-là sont assurés de sa protection. Et cela nous démontre la volonté de Dieu face à ces 140 000 individus de la nation d'Israël. Dieu les protège, Dieu les préserve parce qu'ils sont sa propriété. J'aimerais faire une application ici. Vous savez, c'est une nation qui est détestée par la plupart des autres nations. On a que nous rappeler de la Deuxième Guerre mondiale, quand Hitler a voulu exterminer les Juifs, et vous vous rappelez de toute l'horreur des camps de concentration, Auschwitz et j'en passe, où est-ce que les Juifs ont subi des horreurs atroces. Et même de nos jours, il y a des pays arabes qui parlent justement de déloger Israël de leur pays et les pousser jusqu'à dans la mer. Et dans ce contexte ici, l'Antichrist va venir et il sera un grand persécuteur de ce peuple. Mais quelle devrait être notre attitude, votre attitude face à Israël? Dieu a choisi, Dieu protège, Dieu préserve. Et même si on n'est pas d'accord avec tout ce que cette nation fait, parce qu'actuellement elle est dans un état justement d'apostasie. Mais j'aimerais vous rappeler qu'un jour, Dieu va restaurer la nation d'Israël. Jérusalem sera la capitale, justement, religieuse de ce monde. Le Christ, il va y régner. Est-ce que Israël mérite cela? La réponse est non. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans sa volonté pour cette nation, il a décidé qu'il en soit ainsi. Et ce matin, respectant la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu pour Israël. Bonne façon de faire cela, c'est de prier. La parole de Dieu nous exhorte de prier pour la paix de Jérusalem. Parce que quand cette nation-là sera restaurée, ça va être justement un temps incroyable pendant le millénaire où Christ est honoré, où Christ est glorifié. Une période de temps que la terre n'a jamais connue. Ça passe par la restauration d'Israël. Prions pour la paix de Jérusalem. Dans le contexte, dans le chapitre 7, nous avons un deuxième contexte, nous avons la grande foule. La question qu'on peut se poser ce matin, mais qui sont ces individus? Lisons le verset 9 ou verset 17 pour la réponse à cette question. Après cela, je regardais Apocalypse 7, 9, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et les quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu, en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce. » L'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des veillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. » Et le servent jour et nuit dans son temps. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pétra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Qui sont ces individus? Le texte nous dit qu'ils sont de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, et qui viennent de la grande tribulation. Est-ce que cette foule pourrait, est-ce qu'il pourrait s'agir de l'Église? Est-ce qu'il s'agit de l'Église? Nous avons déjà établi que l'Église a été enlevée avant la grande tribulation. Mais j'aimerais vous proposer une preuve supplémentaire pour vous démontrer que cette foule-là, il ne s'agit pas de l'Église. Avez-vous remarqué qu'ils ont des palmes dans leurs mains? Ce sont des branches de palmier. Avez-vous remarqué qu'ils disent « Le salut est à notre Dieu » littéralement « Hosanna ». Avez-vous remarqué que Dieu dit il va dresser sa tente? Dans le texte original, c'est le tabernacle qui est sur eux. Et tous ces éléments-là, si on les considère ensemble, appartiennent à la fête juive, la fête des tentes ou des tabernacles. Et c'était une récolte à la fin de l'année juive. Vous savez, l'Église est associée avec la fête de la Pentecôte. J'aimerais vous proposer que cette foule-là, c'est une riche récolte, comme dans le temps des Juifs. C'est une riche récolte d'âmes à la fin des temps. Ce sont des individus qui sont martyrisés pour leur foi. Et ça nous amène à un deuxième point. La souveraineté de Dieu, la volonté de Dieu, il va préserver 144 000. Dans sa souveraineté, il va permettre la persécution à cette grande foule. Et ils vont mourir pour le froid. Et vous et moi, nous devrions, si on respecte la souveraineté de Dieu, nous devrions accepter cela. Accepter la volonté de Dieu pour les nations. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'il assure sa protection à ces 144 000? Et pourquoi est-ce qu'il permet que cette foule-là, les individus sont martyrisés pour le froid? Pourquoi est-ce que les 144 000 vont échapper à la colère de l'agneau et cette foule-là va écoper justement la colère de l'Antichrist? Je n'ai pas de réponse à ces questions. Mais j'aimerais vous dire une chose. Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Mais vous savez que Dieu est une façon d'utiliser justement les événements et des choses pour nous qui paraissent vraiment terribles et horribles. Dieu est capable d'aller chercher des bénédictions. Et même si le sang va couler à flot de cette grande foule-là, j'aimerais vous faire remarquer ce matin quatre bénédictions qui découlent non du sang de cette foule, mais du sang de l'agneau. Parce que nous avons lu dans le texte, cette foule, ils ont blanchi, ils ont lavé leur robe, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et en parlant justement du sang de l'agneau, vous allez constater que Jésus-Christ lui-même aussi a été soumis à la souveraineté de son Père. Sa volonté pour son Fils, c'est que son sang coule. Sa volonté pour ses martyrs ici, c'est que le sang coule. Mais prenons l'exemple de Christ, qui a été soumis à la volonté de son Père et qui a su reconnaître justement la souveraineté de son Père. Alors, il y a quatre bénédictions qui vont découler justement de cet événement terrible. Tout d'abord, il y a la purification. Si vous gardez votre texte au verset 14, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leur robe, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Vous allez vous suggérer, j'aimerais aussi vous rappeler que la couleur blanc dans les Écritures symbolise la pureté. Quand le Seigneur Jésus-Christ a été transfiguré sur la montagne de transfiguration, nous lisons que ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Quand l'ange est descendu pour rouler la pierre qui était sur le tombeau de Jésus, nous lisons que son vêtement était blanc comme la neige. Et cette foule ici, justement, innombrable, sont revêtues de robes blanches parce qu'elle a connu la purification. Si on fait justement le lien, c'est le sang de Christ qui purifie. Ce n'est pas la confirmation, ce n'est pas le baptême, ce n'est pas l'ascétisme, ce n'est pas le gnosticisme, et j'en passe, c'est le sang de Christ qui purifie. Et ces martyrs-là sont devant le trône de Dieu, dans les robes blanches, parce qu'ils ont connu la purification du sang de Jésus-Christ. Vous savez que dans l'Ancien Testament, le sang des taureaux et des boucs apportait une purification. Hébreux 9, 13 nous dit ceci, que le sang des taureaux et des boucs et les cendres d'une vache répandues sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair. Et la purification était temporaire. Le souverain sacrificateur entrait à chaque année, répéter souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Dans le Nouveau Testament, on nous parle du sang de Christ. Écoutons ce texte ici. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Le sang de Christ, le sang par excellence, le sang des taureaux et des boucs purifiés de façon temporaire. Le sang de Christ purifie pour l'éternité. Et ces 140, excuse, la grande foule est là devant le trône de Dieu, dans des robes blanches, purifiées par le sang de Christ. La seule manière de connaître la purification, c'est par le sang. John Wesley, grand évangéliste britannique, on nous dit qu'il retournait chez lui un soir après un service, puis il s'est fait voler. Et le voleur a trouvé John Wesley, il n'avait pas beaucoup d'argent, il avait peu d'argent, puis il y avait aussi de la littérature chrétienne. Fait qu'il n'a pas perdu du temps, là, il a tout à ramasser l'argent, puis il était sur le point de partir. John Wesley a crié après lui, « Arrêtez! J'ai encore quelque chose à vous donner. » Voilà qu'il était surpris. Vous savez, Wesley lui a dit, « Il se peut qu'un jour que vous allez regretter ce style de vie. Si jamais cela vous arrive, voici ce que vous devriez vous rappeler. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. » Le volant est parti encore plus vite. Mais Jean Noisy, en retournant chez lui, il a prié. Il a dit, « Seigneur, je te demande que ces paroles-là que j'ai prononcées puissent porter du fruit. » Quelques années plus tard, à la fin d'un service, Jean Noisy est en arrière, en train de serrer les mains, personne qui était venu l'entendre. Il y a un homme qui s'est approché de lui. Et quelle fut sa surprise d'apprendre que cet individu, c'était maintenant un homme d'affaires prospère, était le voleur d'autrefois. Il a dit à Wesley, ce que je suis devenu, c'est à cause de vous. Et Wesley a dit, non, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause du sang précieux de Christ qui purifie de tout péché. Et Dieu avait utilisé ces paroles de façon puissante pour transformer la vie de cet homme et pour le purifier. Vous savez, le sang donne une purification, mais le sang aussi donne une position. Et cette foule-là est devant le Seigneur et le texte nous dit, elle se tient devant le trône et devant l'agneau. Et ça, c'est leur position. Ils sont debout devant le trône de Dieu et dans la présence de Dieu. Et il est intéressant parce que chapitre 6 au verset 17 nous dit, le jour de sa colère est venu et qui peut subsister, ou dans l'original, qui se tenir debout devant la colère de Dieu. Et là, nous avons une foule ici qui sont dans la présence de Dieu. Ils sont debout devant le Seigneur. Ils se tiennent dans sa présence. Et vous savez pourquoi? À cause du sang. La présence de Dieu dans l'Ancien Testament était une chose terrible. Quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï, Moïse a dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Quand Ésaïe a vu le Seigneur élevé dans sa gloire sur une trône très élevée, il y avait des séraphins qui criaient, « Saint, Saint, Saint !» Et l'Éternel des armées, il a crié, « Malheur à moi, je suis perdu. »
Et Jean, dans ce même livre ici, quand il voit le Christ glorifié, il dit, je suis tombé à ses pieds comme mort. Cette foule est ici, debout, à cause du sang. J'aimerais faire le parallèle avec l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait un homme qui était capable d'aller dans la présence de Dieu, le souverain sacrificateur. Une fois par année, et avec du sang. Dieu a dit à Moïse, dis à ton frère Aaron qu'il ne rentre pas en tout temps dans le sanctuaire, de peur qu'il ne meure. Une fois par année, il amène le sang devant l'Éternel. Vous savez que il y avait deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Le texte nous dit qu'ils ont pris chacun le brasier, ils ont mis du feu là-dessus, ils ont apporté du feu étranger devant l'Éternel. Et comment Dieu a-t-il réagi? Le feu est sorti devant l'Éternel, les a consumés. Chers amis, notre Dieu est un feu dévorant. C'est un Dieu qui est saint. Mais ce matin, nous avons le sang de Christ qui nous donne une position. On peut se tenir dans sa présence. Nous avons un libre accès dans le sanctuaire grâce au sang de Christ. Et nous pouvons tenir dans sa présence, lavés par le sang de l'agneau. Savez qu'il y a la purification, il y a aussi la position, mais il y a aussi une proclamation. Ces anges vont dire, cette foule va dire, le salut est à notre Dieu. Et ça, c'est une phrase qui est remarquable. Parce que dans le contexte, l'Antéchrist, ils sont venus de la grande tribulation. Ils ont connu des choses affreuses. Cet homme-là se présente justement comme celui qui est le sauveur. Il refuse de prendre justement sa marque. Il meurt pour le froid. Et pourtant, ils ne sont pas en train d'accuser Dieu. Ils sont en train de glorifier Dieu. Et le cri, c'est que le salut est à notre Dieu. Dans le texte original, c'est « Hosanna !» Et ça, c'est une réponse. Dans Ésaïe, chapitre 23, je pense, je ne suis pas certain de la réponse, mais dans Ésaïe, quand le souverain sacrificateur, pendant le fête des tabernacles, Jésus, quand il s'est levé, puis il a crié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi à boire et qu'il boive. Mais vous savez, on nous disait que le souverain sacrificateur allait puiser de l'eau. Puis, il montait justement dans le temple. Et le peuple qui était là disait, ô Éternel, accorde le salut. La foule dit, le salut maintenant est arrivé. C'est à l'Éternel. Les Juifs attendaient ce moment-là. Ils avaient hâte. Quand Jésus est entré de façon triomphale dans Jérusalem, la foule a crié quoi? Hosanna! 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 Et cette foule ici exalte dans la présence du Seigneur, purifiée par le sang. Ils ont une position devant Dieu. Et comme le psalmiste, ils peuvent dire, il a dressé mon pied sur le roc. Il a mis un cantique nouveau dans ma bouche. Même des louanges à notre Dieu. Et j'espère ce matin que vous pouvez aussi vous tenir devant la présence de Dieu. C'est un privilège. Et j'espère que vous pouvez élever vos voix. Et vous devriez le faire. Et crier Hosanna. Gloire au Seigneur, je suis sauvé. Je vois comment le temps est écoulé, on va arrêter là pour ce matin. Dieu voulant, dimanche prochain, on continuera notre étude de ce texte. Mais j'aimerais vous encourager. La volonté de Dieu, sa souveraineté. Nous avons vu dans la vie d'Israël, il va protéger un certain nombre. Nous l'avons vu dans la vie de cette foule, il permet la persécution. Mais malgré cela, les individus sont capables de se réjouir et donner gloire au Seigneur. Et j'aimerais vous encourager ce matin que si vous êtes en train de lutter avec la volonté de Dieu, et si dans sa souveraineté, il permet des choses difficiles dans votre vie, par la grâce du Seigneur, tournez vos regards vers le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie et notre visage ne couvre pas de honte. Je ne connais pas sa volonté pour vous. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, et il n'a pas de compte à rendre à personne. Mais je sais une chose, que le Père a toujours raison. On va prier. Seigneur, te remercie pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Tu es un Dieu qui fait toutes choses bien. Ce matin, notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi, et même si on ne comprend pas toutes tes voix, comme tu nous dis que tes voix ne sont pas nos voix, tes pensées ne sont pas nos pensées, notre Dieu. Et nous voulons ce matin être soumis à ta volonté. Nous voulons respecter ta souveraineté, que tu es aux cieux et tu fais ce que tu veux. Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta présence avec nous. Merci pour le fait que tu nous as promis de jamais nous délaisser, nous abandonner. Et que même dans les situations difficiles, Seigneur, tu es capable d'aller chercher des bénédictions. Ô Seigneur, donne-nous cette grâce de nous réjouir dans Dieu notre Sauveur et de démontrer, Seigneur, que nous sommes soumis à ta volonté, à ta souveraineté. Nous te le demandons en ton nom et pour ta gloire. Amen.